info.
Il est 17h45 et c'est l'heure de retrouver Léana Colombo pour votre info soir.
Le texte concernant le report des élections provinciales va être renvoyé en commission mixte paritaire. Une astuce législative a été trouvée pour contourner le mur d'amendements érigé par LFI. 2026 s'annonce être une année particulièrement difficile selon la province sud. C'est ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu ce matin. Les responsables du MEDEF national sont actuellement en Nouvelle-Calédonie. Ils étaient nos invités ce midi dans les Jeudis de l'économie. Un homme placé en détention provisoire pour l'incendie de 4 véhicules en début de semaine au Faubourg Blanchot. Il s'agit d'une personne âgée de 22 ans. Un nouveau challenge pour Cédric Do, le champion de boxe thaï. Le Calédonien se prépare à participer à la Nuit des Champions à Marseille le 22 novembre prochain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la proposition de loi organique qui vise à reporter les élections provinciales en juin 2026 va être renvoyée en commission mixte paritaire. Le texte devrait être définitivement adopté mercredi à Paris. Elisabeth Noir, la majorité de l'Assemblée nationale a trouvé une parade pour contourner le mur d'amendement qui avait été érigé par la France insoumise.
Les députés LFI avaient, vous le savez, déposé près de 2000 amendements sur cette proposition de loi qui ne compte que 3 articles. Une obstruction assumée pour soutenir la position du FLNKS qui refuse l'accord de Bougival et qui veut le maintien des élections avant la fin du mois de novembre. Mais le dépôt de plus de 1600 amendements rendait les débats interminables et faisait peser un réel danger puisque le débat budgétaire doit débuter dès ce jeudi. Pour contrer cette tactique de la France insoumise, le député Nicolas Metzdorf, appuyé par son collègue Vincent Cor, a choisi de déposer une motion de rejet préalable du texte qui a été adopté. Auparavant, en ouverture de la séance, hier soir pour nous, les principaux orateurs avaient très directement mis en cause l'obstruction des députés de la France insoumise. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, s'était directement adressée à eux.
Qu'y a-t-il de plus antidémocratique que de bloquer le débat, d'empêcher le vote ici dans le lieu d'exercice de la démocratie? C'est d'une incohérence totale, c'est vous qui faites un déni de démocratie. Vous voulez faire en réalité de la Nouvelle-Calédonie un champ de bataille national, un champ de bataille politique parisien au détriment du territoire et de ses acteurs. Et ça, c'est une faute politique grave. Ce qui se joue là-bas, je le redis, dépasse les affrontements partisans. Ce qui se joue, c'est la stabilité d'un territoire, c'est la sécurité de nos concitoyens, c'est la parole donnée. Je vous invite à prendre de la hauteur, vous en avez encore le temps, retirez vos amendements pour laisser la démocratie suivre son cours.
Une obstruction fustigée également par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ou encore par Philippe Gosselin, c'est le rapporteur LR de la proposition de loi.
Je déplore le choix qui a été fait par le groupe de la France insoumise de déposer plus de 1600 amendements sur ce texte de 3 articles. Il s'agit là d'une tentative plutôt grossière d'embolisation du débat parlementaire, d'obstruction parlementaire. Vous ne vous en cachez d'ailleurs pas, collègues insoumis, dans vos exposés sommaires. Je regrette surtout que cette manœuvre nuise à la lisibilité de nos débats. Elle me paraît surtout irresponsable, tant la Nouvelle-Calédonie attend du sérieux et mérite mieux.
Les députés Nicolas Metzdorf et Vincent Cor ont alors annoncé le dépôt d'une motion de rejet préalable du texte. Cette initiative qui renvoie le texte en commission et supprime son examen en séance publique. C'est sur cette motion de rejet que s'est organisé le débat. Chacun des groupes s'est exprimé en commençant par le député Vincent Cor.
Cette motion de rejet préalable, elle n'est bien entendu pas un changement de position pour notre groupe quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe Ensemble pour la République et moi-même restons pleinement fidèles à l'accord de Bougival et au calendrier constitutionnel qui en découle pour sa mise en application. Nous demeurons fermement convaincus du bien fondé, du chemin qui se dessine, il est d'envergure. Cette motion de rejet préalable, c'est surtout une réponse à une pratique politique et délibérée d'un groupe, la France Insoumise. Cette pratique, elle porte un nom, malheureusement, l'obstruction parlementaire à outrance. Et elle n'a aujourd'hui qu'un seul objectif, faire obstacle à l'adoption de cette proposition de loi organique et donc empêcher l'application de l'accord de Bougival. Car en réalité, ce que cette obstruction refuse, c'est bien la stabilité et la reconstruction pour la Nouvelle-Calédonie. Cette motion de rejet préalable, c'est une réponse politique à une obstruction politique.
Le rapporteur Philippe Gosselin a soutenu cette motion, soutien également du président Renaissance de la Commission des lois, Florent Boudier.
Vous n'avez qu'une intention aujourd'hui, c'est de mettre une huile brûlante sur une situation déjà infamable. Et ça, c'est une erreur politique et c'est irresponsable. 1631 amendements, c'est une obstruction. Et donc, cette motion de rejet, nous en sommes désolés, mais c'est la seule façon de laisser au projet d'accord de Bougival la possibilité de prospérer dans le dialogue entre les acteurs calédoniens, avec ce tiers de confiance que doit rester dans la situation actuelle l'État français, notamment le gouvernement. Et donc, je le dis très sincèrement, en tant que président de la commission des lois, cette motion de rejet n'est pas une motion de rejet de la proposition de loi organique, chacun l'a compris, mais je veux le redire, c'est une motion de rejet de l'obstruction et d'un blocage indécent.
Et puis les deux députés calédoniens ont pris la parole dans le débat. Le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou s'est vivement défendu, une fois encore, d'avoir renié sa signature de Bougival.
On a signé le document parce qu'il nous a dit que c'est un projet d'accord. À quel titre aujourd'hui on vient de discuter, poser sur la table un projet de report des élections provinciales pour nous faire valoir cet accord. Il a été publié au journal officiel sans la mention des signataires, sans la mention même de projet. Je veux dire, vous ne pouvez pas venir nous donner des leçons. Vous n'y étiez pas. Moi, j'y étais. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que le ministre a dit. Nous, on n'a qu'une seule parole, on l'a tenue. Celui qui a manqué à sa parole, c'est l'État. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait et on joue avec notre vie à chaque fois que les décisions sont prises ici au sein de l'Assemblée. Nous, on sait déjà que là-bas, ce projet de texte, il réalimente la tension, la fébrilité, les frustrations. C'est pour ça qu'il faut redonner la parole au peuple. C'est les assises mêmes de la démocratie. Ça fait 7 ans qu'on reporte les élections, qu'on a un mandat. Donc on demande la tenue des élections provinciales pour conforter l'assise de ceux qui sont autour de la table pour porter les discussions institutionnelles sur la sortie de l'accord de décolonisation.
Et le député Nicolas Metzorf lui a répondu directement en rappelant que lui aussi, il était à Bougival.
Je retiendrai simplement qu'en allant là-bas, tous les deux avec nos délégations, on a avancé comme personne n'avait avancé ces 7 dernières années sur la Nouvelle-Calédonie. Nous avons accepté des choses que jamais nous puissions penser accepter, les non-indépendantistes. On a accepté un État dans l'État, une nationalité calédonienne dépendante de la nationalité française, une loi fondamentale inscrite dans la Constitution de la République française. Et nous avons eu beaucoup de mal à l'expliquer sur place, à nos militants, à nos adhérents, à nos électeurs. Mais nous l'avons fait pour le bien de la Nouvelle-Calédonie. On est conscient d'une chose, c'est que rien ne se fera les uns sans les autres. Personne n'emportera 100% d'une solution idéale dans son camp. Et s'il faut encore prendre le temps de rediscuter, d'amender, de préciser les choses pour qu'on puisse emmener un maximum de gens sur l'accord de Bougival ou sur un accord consensuel, quel qu'il soit, prenons ce temps-là. Chers collègues, je t'invite et j'invite l'Assemblée nationale à nous aider à poursuivre les négociations. Nous, les non-indépendantistes, nous y sommes prêts parce que nous voulons à tout prix le bien-être de la Nouvelle-Calédonie et pour l'image de la France aussi.
La motion de rejet préalable a été votée par une très forte majorité, 257 voix contre 105. Le Rassemblement national, notamment, a décidé de voter cette motion de rejet. En revanche, les socialistes qui soutiennent le report des provinciales n'ont pas voté la motion qui visait à contourner les amendements. Cette motion de rejet permet en fait de renvoyer le texte devant une commission paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs, une commission mixte paritaire qui se réunira lundi à 16h30, c'est-à-dire dans la nuit de lundi à mardi pour nous. Elle sera ensuite soumise à un vote dans chacune des chambres. La conférence des présidents du Sénat a déjà inscrit ce scrutin à son ordre du jour pour mercredi, et c'est à ce moment-là qu'en principe la loi devrait être adoptée définitivement.
Et après l'adoption de la motion de rejet préalable qui a renvoyé la proposition de loi organique devant une commission mixte paritaire, le bureau politique du FLNKS affirme qu'il faut abandonner le projet de Bougival.
Le nouveau FLNKS dénonce avec la plus grande fermeté ce qu'il appelle la nouvelle et énième manœuvre du gouvernement français visant à contourner le débat démocratique autour du report des élections provinciales. Il explique que le texte adopté par le Sénat, qui prévoit le report des provinciales et ouvre la voie au dégel du corps électoral, a de grandes chances d'être entériné sans aucun débat public ni amendement. Pour lui, cette méthode déjà utilisée en mai 2024 témoigne d'une habitude inquiétante, celle du passage en force et du mépris du peuple colonisé. Il affirme que le FLNKS demeure la principale force politique du pays, le représentant légitime du peuple kanak et le principal acteur du processus de décolonisation. et pour lui régler la question politique de la Nouvelle-Calédonie sans le FLNKS est intellectuellement et moralement incompréhensible. Il poursuit en affirmant que dans le cas calédonien, les deux parties au conflit sont clairement identifiées. Il s'agit, dit-il, de la puissance administrante française et du FLNKS. Et il dénie toute représentativité à ce qu'il appelle les micro-partis non indépendantistes qui ne sont pas des belligérants. Pour lui, la solution est simple. Puisque l'un des deux partenaires du dialogue n'est pas d'accord, il faut abandonner le projet de Bougival. Le nouveau FLNKS affirme que ce texte rejeté par l'ensemble du FLNKS n'a aucune légitimité politique ni coutumière. Nous ne reviendrons pas à la table des discussions concernant le projet d'accord de Bougival, ajoute le FLNKS. Il conclut en appelant à rester vigilant et mobilisé pacifiquement pour défendre la démocratie, la légitimité et la pleine souveraineté de Kanaky. Fin de citation de ce communiqué qui est signé de Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC qui assure l'animation du bureau politique.
Et nous reviendrons demain matin sur cette séance de l'Assemblée nationale et sur la proposition de loi organique en compagnie du député Nicolas Metzdorf. Il sera notre invité du matin en direct de Paris demain à 7h30. Et c'est le président de l'éveil océanien Milakoulo Tukumuli qui sera demain midi votre invité, Elisabeth Noir, dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur l'actualité politique calédonienne, sur le cheminement législatif de la loi sur le report des provinciales, sur le projet de loi constitutionnelle et plus globalement sur l'accord de Bougival et la difficulté de sa mise en œuvre avec notamment le refus du FLNKS. Milakoulo Tukumuli, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 95% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas comprendre la démarche du groupe UCFLNKS qui demande la démission du président du gouvernement. Ils ne sont que 5% à dire qu'ils la comprennent. Et notre question du jour, trouvez-vous normal que des détenus du camp Est fassent un recours contre l'État pour protester contre leurs conditions de détention? Si vous trouvez cela normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
RRB, il est 17h57.
L'année 2026 pourrait être plus difficile que 2025. C'est ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu ce matin. Après les violences de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie fait face à une baisse importante de ses recettes fiscales. En 2026, l'assiette est estimée à 98 milliards 800 millions de francs contre 114 en 2023. La province sud veut donc anticiper les aléas d'une évolution fiscale encore fragile et incertaine. Objectif, maintenir une enveloppe d'investissement à au moins 10 milliards de francs et maintenir le fonds de roulement autour de 60 jours. Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
Les finances de la province sont obligées d'absorber en fait le choc financier depuis les émeutes. On essaye d'avoir la gestion la plus responsable possible. C'est pour ça qu'on a un fonds de roulement qu'on essaye de conserver. C'est pour ça qu'on maintient un niveau de trésorerie suffisant. L'idée, c'est quoi? C'est de dire on ne sait pas de quoi sera fait 2026. On ne sait pas si on aura de nouvelles aides de l'État puisque le prêt garanti va être complètement consommé cette année. Et de dire, nous, on veut absolument maintenir notre niveau d'investissement, parce que l'investissement, c'est des gens qui travaillent. C'est-à-dire que concrètement, quand on a un chantier, ce sont des entreprises qui bossent, donc ça apporte quelque chose à l'économie. Donc malgré toutes les difficultés, on essaye de maintenir un niveau d'investissement important. Et pour ça, il faut avoir un peu de marge de manœuvre, et c'est ce qu'on essaye de faire difficilement.
Les élus ont donc procédé au débat d'orientation budgétaire, première étape de l'adoption du budget primitif 2026. Mais avant cela, les élus ont dû voter une décision modificative du budget 2025 pour l'ajuster. Il faut trouver environ 800 millions de francs en fonctionnement sur les trois derniers mois de l'année. Et pour cause, le gouvernement avait estimé la perte des recettes fiscales à 35 milliards en 2025. Ce sera finalement 55.
Nous, on a été informés en septembre. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de réajuster en cours d'année, uniquement sur les trois derniers mois. Et finalement, on est obligé de contraindre, puisqu'on n'a que trois mois pour faire ces économies-là, énormément nos dépenses, de manière à rentrer dans cette nouvelle enveloppe. On fait des coupes sur absolument tout, le fonctionnement, les subventions, les interventions, puis on fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts sur la masse salariale. C'est notre plus gros poste d'économie, la masse salariale. Ce qui est très important, et je pense que c'est important que les Calédoniens et les entreprises le sachent, c'est qu'on priorise deux choses. Un, payer nos factures. On s'est retrouvé dans une situation l'année dernière où, parce que le gouvernement avait 8 milliards de dettes envers la province, on ne pouvait plus payer à temps nos mandats, les entreprises qui travaillaient pour nous. Ça, c'est terminé. Les entreprises, quand elles travaillent pour nous, elles seront payées. Ça, c'est fondamental pour nous. Et deux, les salaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse continuer à payer les salaires des fonctionnaires, parce que sinon, évidemment, c'est l'économie qui s'effondrerait encore plus.
Les élus ont également adopté le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta. Et les élus ont aussi voté pour remplacer Naya Wateu au conseil d'administration du SMTU. L'actuelle présidente cède sa place au CA Jean-Gabriel Favreau, ce qui signifie qu'il y aura une élection pour désigner le nouveau président du syndicat mixte des transports urbains. Les questions budgétaires seront aussi au menu des élus de l'Assemblée de la province Nord qui se réunissent demain à Conné. Parmi les 21 points à l'ordre du jour figure en effet l'examen de la décision modificative numéro 3 du budget. Pour le reste, il s'agit essentiellement de l'attribution de subventions à des particuliers pour la réalisation d'un logement dans le cadre du programme Action sociale intégrée de la province. Et les élus de Dumbéa sont actuellement également réunis pour un conseil municipal. 27 projets de délibération sont inscrits à l'ordre du jour. Parmi les points étudiés, la décision numéro 1 du budget principal de la commune et des budgets annexe. L'actualité, c'est aussi Patrice Faure qui devient le nouveau préfet de police de Paris, l'ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie qui était depuis près de 2 ans directeur de cabinet du président de la République, a été nommé en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur. Vu la sensibilité du poste, cette nomination a été validée par le chef de l'État. Patrice Faure remplace donc Laurent Nunez, devenu ministre de l'Intérieur. Et le conseil des ministres qui a également nommé un nouveau préfet administrateur supérieur de Wallis et Futuna. Il s'agit de Jean-François Maheul. Il remplace Blaise Gourté qui occupait le poste depuis juillet 2023. 18h, passé de 1 minute, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité économique sur le territoire. A tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprises, cabinets juridiques, collectivités, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Léana Colombo.
Se rendre compte de la réalité économique de la Nouvelle-Calédonie et rencontrer ses acteurs. C'est l'objet de la visite qu'effectuent actuellement les responsables du MEDEF national en Nouvelle-Calédonie. Son président Patrick Martin et son vice-président Bruno Arkadipan étaient nos invités dans les Jeudis de l'économie en compagnie de Mimsy Délé, la présidente du MEDEF-NC, Jean-François Baudin.
Patrick Martin connaît évidemment la situation politique et économique du territoire. Le MEDEF-NC travaille en étroite collaboration avec la structure nationale. Depuis hier, avec les membres de sa délégation, Patrick Martin rencontre et échange avec les entrepreneurs calédoniens et il ne s'attendait pas à découvrir une telle énergie après les émeutes de 2024.
Je trouve qu'il y a dans ce territoire, alors c'est vrai d'une manière générale des chefs d'entreprise, mais singulièrement dans ce territoire, je trouve qu'il y a une énergie entrepreneuriale qui est absolument extraordinaire. Et j'avoue que je n'en attendais pas tant, parce que c'est vrai que les événements de l'an passé ont été un véritable traumatisme, avec des conséquences psychologiques, mais des conséquences matérielles absolument considérables. Eh bien, non, c'est pas ce que j'ai compris, en tout cas. Alors, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à régler toutes les situations. À un moment donné, il faut prendre des options claires, nettes, précises, et puis des options d'avenir, pas des options de déclin.
Et pour que les choses avancent et que la Calédonie sorte petit à petit de l'ornière économique dans laquelle elle est plongée, il faut aussi réussir à faire coïncider d'une certaine façon le temps politique et le temps économique, car les enjeux sont d'importance et nécessitent une véritable stratégie, estime Patrick Martin.
Quand on parle d'enjeux aussi importants que les enjeux de souveraineté, je fais référence bien sûr au nickel, mais pas que, avec des investissements en regard qui sont des investissements lourds, il faut qu'il y ait le déploiement d'une stratégie très concertée, bien sûr en amont, et qui embarque, je dirais, toute la société néo-calédonienne, mais dont le déploiement prendra forcément des années. Je parle d'infrastructures portuaires, je parle de filières agricoles, je parle d'investissements dans l'énergie. Et donc, il y a une espèce de contradiction sur laquelle je ne porte pas de jugement de valeur, parce que par définition, on a un infini respect pour les élus du peuple. Hein. Mais il y a une espèce de contradiction, effectivement, entre des logiques et des calendriers à proprement parler politiques, et cette nécessité, cette impérieuse nécessité pour le monde économique d'avoir une visibilité, d'avoir une stabilité, d'avoir une vision.
Pour cela, la mise en œuvre de réformes est donc nécessaire. C'est le travail qui est mené au sein de la commission interministérielle présidée par Claire Durieux, qui s'est fixé un calendrier de travail et des moyens qui vont permettre, espère la présidente du MEDEF-NC, Mimsy Delay, de travailler sur un tempo soutenu rendu nécessaire par l'urgence de la situation.
La méthode, elle est éprouvée. Hein. On travaille de façon concertée avec les partenaires sociaux et l'État depuis un long moment. On ne va pas réinventer l'ensemble des propositions qui sont pour la plupart déjà sur la table. Mais là, il y a une notion de tempo. C'est important pour nous. Un calendrier qui est tenu et qui doit l'être d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de ce temps qui joue contre nous hein, pour mettre en œuvre les réformes. Et là, il y a cette notion de temps court sur une partie des réformes à mettre en œuvre. La nouveauté, c'est aussi l'ingénierie mise à disposition par l'État, qu'on réclamait depuis longtemps pour nous aider justement à aller plus vite, à décider à notre place, mais au contraire à nous accompagner pour aller plus rapidement sur les dossiers les plus techniques. Bien sûr, le MEDEF, il prendra toute sa part et nous souhaitons avancer à un tempo soutenu.
Nous avons profité de la présence de Patrick Martin pour évoquer quelques grands sujets de l'actualité en métropole et notamment la suspension de la réforme des retraites annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le président du MEDEF estime que ce n'est pas une bonne solution. Il souhaite que la réforme soit appliquée.
On le souhaite pas pour le MEDEF, ni même pour les entreprises elles-mêmes, on le souhaite pour le pays. Parce que finalement, la France est en train de se déclasser progressivement, et particulièrement en termes de pouvoir d'achat par habitant. Quand on voit que l'Allemagne, la Hollande, maintenant, ont un pouvoir d'achat par habitant supérieur de 15, 20, parfois 40% celui des Français, alors que ça n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans, ça doit interroger. Quelle est la réponse ? La réponse, c'est qu'il faut travailler plus. Et je dirais qu'elle est pimentée, cette réponse, par le fait évident qu'on a une démographie qui va de plus en plus déséquilibrer.
Travailler plus ou travailler plus longtemps ?
Alors, les deux. Les deux. Évidemment, le fait qu'on suspende non seulement la réforme Borne sur l'âge légal de départ, mais la réforme Touraine sur le nombre de trimestres de cotisation, ça va donner un coup de frein terrible et ça va peser sur la prospérité du pays, donc le pouvoir d'achat. Et en ce moment même, on est en train de suspendre, peut-être d'annuler, disons les choses, hein, ces réformes des retraites, et on a un projet de budget qui va taxer plus encore les investisseurs et les entreprises, donc le capital. Mais écoutez, c'est pas ça qui nous mettra dans la bonne direction, et moi en tant que président du MEDEF, j'assume totalement cette position, qui est peut-être pas très populaire, mais qui est de bon sens.
D'une manière plus générale, Patrick Martin regrette que les sujets essentiels, l'emploi des jeunes ou la formation par exemple, ne soient pas assez pris en compte dans le débat politique.
Quand vous regardez bien les choses, le débat politique est focalisé sur quelques sujets qui ne sont pas négligeables, mais qui ne sont pas essentiels. C'est la taxation des super-riches, c'est les supposées aides aux entreprises avec un rapport qui est complètement bidon. Je le dis d'autant plus que je l'ai dit à son auteur quand il m'a invité à plancher en face de lui à la fête de l'humanité. Vous voyez que rien ne m'arrête, où j'étais très bien reçu, je dois le dire. Hein. Et un certain nombre d'autres sujets qui délibérément saturent le débat public et occultent les vrais enjeux. Je le redis, les vrais enjeux, c'est la croissance, c'est l'innovation, c'est l'investissement, c'est la compétitivité. Et je finis en vous disant que je suis profondément choqué, y compris des formations qui historiquement et je dirais philosophiquement devraient s'y intéresser, ne parlent même plus d'emploi et parlent encore moins des jeunes. Je pense que c'est beaucoup plus important que d'aller chercher 1 milliard ou 2 milliards d'euros au risque de dissuader les investisseurs de venir en France.
Des extraits des jeudis de l'économie auxquels participait également Bruno Arcadipane, vice-président du MEDEF et président d'Action Logement. Une émission qui est disponible en réécoute audio et vidéo sur notre site internet.
4 véhicules incendiés au Faubourg Blanchot en début de semaine. L'homme interpellé reconnaît les faits. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour destruction par incendie de plusieurs véhicules, accompagné de vols et de tentatives de vol. Jean-François Bonnet.
Oui, mauvaise surprise pour le gérant de l'atelier gourmand mardi matin lorsqu'il découvre son véhicule de travail calciné devant sa boutique. On imagine la même consternation pour les propriétaires de deux voiturettes brûlées et d'une citadine incendiée la même nuit. Moins d'une semaine après les faits, le parquet communique sur les circonstances de ces actes. il ressort de l'enquête qu'un homme âgé de 22 ans, déjà condamné par des vols aggravés et pour des vols aggravés et destruction de biens publics, serait à l'origine des destructions. Il a reconnu les faits. Il aurait au cours de la soirée dégradé plusieurs véhicules, puis après avoir consommé alcool et cocaïne, il a mis le feu au fourgon de la société L'Atelier Gourmand. Énervé de ne pas y trouver de nourriture, a-t-il dit. Plus tard, il incendie deux voiturettes, feu qui se propage à une Citroën garée à proximité. C'est un peu plus tard que l'homme a été interpellé par la police municipale avec 1,2 g d'alcool dans le sang. Au total, écrit le procureur de la République Yves Dupas, trois véhicules ont été totalement détruits, un quatrième dégradé. L'auteur présumé en cour, 10 ans d'emprisonnement, il a été placé en détention provisoire.
Le commandant Damien, chef de l'antenne du RAID en Nouvelle-Calédonie, était ce matin notre invité à 7h30. Le RAID qui fête aujourd'hui le 40e anniversaire de sa création. RAID pour recherche, assistance, intervention et dissuasion. Aujourd'hui, 16 antennes sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Parmi elles, celle de Nouméa qui a été créée en 2018. L'unité intervient dans plusieurs domaines, nous expliquait ce matin le commandant Damien.
Ça va être principalement tourné sur notre cœur de métier, prise d'otages, forcenés, toutes ces situations de crise qui peuvent être à haut risque, et l'interpellation de malfaiteurs dangereux ou violents.
Les prises d'otages, il n'y en a pas tous les 4 matins en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous faites, j'allais dire, lors d'une journée sans intervention du côté du RAID ?
Une journée normale sans intervention, c'est aussi consacré au soutien aux services d'investigation de la police judiciaire. Ouais. Hein, en Nouvelle-Calédonie, c'est des missions qui nous sont dévolues, mais c'est aussi une grosse part consacrée à l'entraînement. Notamment dans nos spécialités, puisque les spécialités des agents sont très nombreuses, entre le sniping, l'avarap, l'aérocordage, la négociation. Ce sont des choses à travailler au quotidien pour être performant le jour d'intervention.
Le commandant Damien, chef de l'antenne du RAID de Nouméa, invité ce matin sur Radio Rythme Bleu. Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. 18h, passé de 10 minutes, seconde pause avant de passer au sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixone, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et la semaine du cheval commence demain sur l'hippodrome Henri Mignard de Nouméa. Vous y retrouverez des concours d'équitation, des animations et des spectacles. Pour l'occasion, des pratiquants et des chevaux venus de tout le territoire se donneront rendez-vous pour cette 12e édition. Un événement qui se déroulera à partir de demain et jusqu'à dimanche. L'actualité sportive, c'est aussi notre champion de boxe thaï Cédric Do qui prépare un nouveau combat au sommet. Jean-François Baudin.
Il sera en effet engagé le 22 novembre prochain dans la Nuit des Champions. C'est un événement réputé de la discipline qui a lieu à Marseille, sur le ring du Palais des Sports de la cité phocéenne. Il affrontera Frédéric Carlo Berrichon, un très sérieux rival. Cédric Do nous a fait part de son état d'esprit avant ce nouveau rendez-vous au sommet national.
L'adversaire, donc, c'est un gros nom. Il s'appelle Frédéric Berrichon. Il était numéro 1 français à 72,5 kg. Et ma catégorie à moi, c'est 75 kg, 77 kg aussi. Et donc, du coup, on s'est entendu point à combat. Donc, moi, j'aime bien ce genre de challenge justement, et lui aussi, puisqu'il manque de catégories pour m'affronter.
À quoi est-ce qu'il faut s'attendre face à cet adversaire ?
C'est quelqu'un qui a de la puissance dans les poings. On a quelque part le même style. On essaye de toujours avancer, d'être assez agressif dans notre boxe. Du coup, ça va être, je pense, un combat où on va essayer de garder le centre du ring, tous les deux. Et il faudra être vigilant parce qu'il a une grosse anglaise et il fait mal aussi avec ses poings. Donc, faudra bien monter la garde et jouer aussi avec moi, mes forces, pour pouvoir le déstabiliser. On a, nous deux, une belle place sur la scène nationale. Et donc, du coup, on sait forcément que le gagnant, ça va asseoir, en tout cas, notre statut de top français. J'ai à cœur de pouvoir gagner ce combat.
Cédric Do, surnommé The Caledonian Fighter, s'est fait une solide réputation sur la scène nationale et internationale, mais il a vu ses deux derniers combats annulés avant les dates prévues, ce qui a été un coup dur dans sa préparation. Il a tout de même pu suivre un stage intensif en Thaïlande et il a pu compter sur tous les soutiens dans cette aventure pour continuer d'évoluer dans le haut niveau.
Au niveau des entraîneurs ici, j'ai des personnes qui m'épaulent. Donc toujours Sébastien Dreton, Yarmila, donc c'est une fille qui m'entraîne aussi. Donc Azriel, donc c'est un ami qui me permet de m'entraîner aussi. Et après pour le sparring, il y a tous les boxeurs de ma team que j'ai monté ici et que j'ai fait progresser et qui commencent à connaître par cœur mon style et qui savent me mettre en difficulté aussi. Une minute avec chaque adversaire, ce qui me met moi dans le dur physiquement, psychologiquement et donc du coup qui permet de retrouver des sensations justement proches du combat. Pour les remerciements, déjà d'une part je remercie mon sponsor principal qui est Sirtis Major, tous les sponsors qui m'ont aidé depuis le début de ma carrière parce que j'en serais pas là sans eux, tous ceux qui m'aident au quotidien, que ce soit pour m'entraîner, pour mes salles, toute ma famille, tous mes amis, toute la team, c'est des Fight Academy, il y a du monde qui est autour. Merci à vous, la radio RRB aussi. C'est un sport individuel, mais je pense que c'est le sport le plus collectif des sports individuels. En tout cas, il faut vraiment avoir une bonne team derrière.
Des propos recueillis par Michael Juneski. Cédric Do quittera le territoire le 10 novembre prochain, 12 jours avant le combat prévu à Marseille, ce sera le 22 novembre.
Merci Jean-François Baudin. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la SET. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La SET, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
La vigilance jaune pour forte pluie et orage restera en vigueur sur les Loyautés avec un risque d'averse orageuse qui s'atténuera en soirée. Cette nuit, les averses résiduelles s'estomperont sur l'ouest un peu plus tard aux Loyautés où elles pourront encore être orageuses en début de soirée. Les nuages resteront nombreux mais le temps s'assèchera progressivement. Le vent variable faible se généralisera sur l'ensemble du territoire. Les températures minimales resteront stables entre 18 et 22 degrés. Demain matin, le temps redeviendra plus clément sur la Nouvelle-Calédonie. Enfin, on pourra pouvoir souffler un petit peu, même si de petites averses circuleront encore sur les Loyautés. Bon, bah pas tout de suite. La façade est et la pointe sud. Le vent restera faible de secteur est à sud-est, entre 5 et 10 nœuds. Côté marée, elle sera haute ce soir à 20h48 pour 1m40. Elle redeviendra basse du coup derrière à 3h03 pour 0m8, avant une nouvelle marée haute vendredi matin à 9h34.
Eh bien, merci beaucoup Pierre. On attend avec impatience le retour du soleil. Il est 18h16, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres. En attendant, retrouvez tout de suite le journal d'Europe 1 suivi à 18h30 de l'interview d'Europe 1. Ce soir, Sonia Mabrouk reçoit le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu.